RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sont là en direct, comme tous les matins de 9h à midi sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Merci de votre fidélité. Vous pouvez également, vous le savez, podcaster les GG à tout moment. Et puis nous retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur le compte X des GG. Bref, si vous loupez en direct les grandes gueules, vous nous retrouvez un peu partout. Snapchat, bien sûr, également. Bref, tous les réseaux accueillent les GG. Autour de la table aujourd'hui, Jérôme Marty, notre docteur, l'avocate Sandrine Pégan et notre agriculteur Didier Giraud. Mais vous le savez, l'événement aujourd'hui, ce sont les places pour le match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, qu'on vous offre uniquement sur RMC. Alors le match, c'est mardi prochain, à 21h au Parc des Princes. En fait, c'est l'événement, l'expérience RMC qu'on vous offre. L'expérience RMC, c'est un avant-match. Donc vous assistez aux émissions d'RMC avant le match. Ensuite, direction le Parc des Princes pour assister à la rencontre. Et puis ensuite, vous revenez dans les six lieux d'RMC pour assister à l'after avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Bref, cette expérience RMC, on vous l'offre. Il suffit simplement... Quand vous entendrez ceci, d'envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16, vous aurez 5 minutes. Donc soyez vraiment attentifs à ce qui se passe sur l'antenne, sachant que ça va tomber avant la fin des grandes gueules. Donc restez vraiment à l'écoute jusqu'à midi. Vos places Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, c'est uniquement sur RMC et c'est vraiment le match à ne pas louper. Vous vous souvenez de Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, puisqu'il a été désigné par les adhérents de son parti qu'il préside, les LR. Eh bien, Bruno Retailleau veut mettre au banc des nations européennes l'Espagne du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Pourquoi ? Parce que l'Espagne veut régulariser 500 000 sans-papiers pour soutenir l'économie de son pays. Ah ben la virgule est passée, croyais qu'on l'avait pas passée. Non, elle est passée. Donc on continue, on enchaîne. Donc 500 000.
La magie du direct.
Oui, t'as vu, j'ai attendu.
Ah, franchement,
500 000. Alors ce sont des gens qui sont chez nous, enfin qui sont en Espagne déjà, qui travaillent, mais qui n'ont pas les papiers. Et donc le gouvernement socialiste dit, il faut les régulariser, on en a besoin, etc. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, dit que c'est une très mauvaise idée, parce que en ce moment on est plutôt dans l'idée de durcir les politiques migratoires dans une grande partie de l'Europe, et l'Espagne va finalement lancer un appel d'air. Rappelons que l'Espagne est l'une des trois principales portes d'entrée de l'immigration en Europe, avec l'Italie et la Grèce, majoritairement via son archipel des Canaries au nord-ouest de l'Afrique. Alors, qui a raison ? Est-ce qu'il faut suivre l'exemple espagnol ou au contraire, comme le dit Retailleau, c'est un modèle à fuir ? Le 32-16 pour intervenir Didier Giraud ?
Bah, moi, je pense qu'on ne peut pas faire le constat qu'une partie des maux de notre société, c'est une immigration qui est pas régulée, qui est pas, enfin, c'est une immigration qui ne va pas vers de l'intégration. C'est quand même une partie des maux de notre société. Enfin, je pense que ceux qui sont dans les tribunaux peuvent régulièrement en témoigner. Et derrière ça, dire on va régulariser massivement. Enfin, la différence entre nous et l'Espagne, déjà, c'est concrètement une fiche de paye, hein. Parce que la fiche de paye de l'Espagne et la fiche de paye de la France, c'est pas la même. Et qui dit régulariser, dit emmener les patrons vers payer des charges sociales. Donc je suis pas sûr que, un, l'immigration de travail qu'il y a chez nous, on puisse la régulariser comme ça et qu'elle se transforme en CDI. Ça, j'en suis pas du tout d'accord. Et puis derrière ça, il y a quand même une partie des problématiques de la France autour de la délinquance où on peut faire des ponts avec l'immigration. Et je pense que Retailleau, il a un peu raison de dire que
Attention danger.
Ben oui, même si les pays sont différents et que l'Espagne a peut-être intérêt à faire ça, j'arrive pas à comprendre c'est quoi la logique de régulariser massivement.
La logique,
parce que quand tu régularises massivement,
la logique est démographique.
Je veux dire, Retailleau peut pas dire tout et son contraire. On peut pas à la fois dénoncer une immigration qui ne travaillerait pas et qui viendrait là uniquement pour profiter de ce que peut amener la France, mais sans amener de richesse à la France puisque nous ne travaillons pas, et puis dénoncer un pays qui régularise 500 000 personnes qui travaillent.
Oui, mais qui sont clandestines.
Bah, oui, mais qui travaillent ou qui travaillent pas.
Non, mais qui travaillent, si.
Bah non, mais les clandestins, par définition, tu sais pas trop ce qu'ils font.
Mais tu régularises parce qu'ils
sont sans papier, en tout cas.
Ils sont sans papier, mais ils travaillent.
Donc ils sont arrivés clandestinement dans le pays. Et ce que Retailleau dénonce, c'est que finalement, on leur donne raison.
Ça va être un appel d'air.
C'est-à-dire
tout le reste du village va vouloir venir.
En disant, bah finalement, allons-y, allons en Espagne, on sera régularisé. Et en même temps, je comprends l'argument de l'Espagne en disant, on manque de main-d'œuvre.
On a besoin de main-d'œuvre. Voilà. Comme ça s'est passé en France à une époque, comme ça peut se passer partout, quand tu as besoin de main-d'œuvre.
En Italie aussi.
Tu interroges le moindre artisan que tu as dans ce pays, le moindre artisan te dit je ne trouve pas de main-d'œuvre. Oui. Donc si tu veux, à un moment, il va peut-être. Moi, j'ai des amis qui sont dans le BTP, les artisans et ouvriers qu'ils ont, c'est des Roumains, c'est des Ukrainiens, c'est des Polonais, mais c'est pas des Français.
Mais on est pris entre deux injonctions contradictoires.
Sauf que la différence entre l'Espagne et nous, c'est les charges sociales qui sont pas les mêmes.
Oui,
quand
ça, tu as raison.
Et du coup, la différence entre le net et le brut, si demain tes copains qui sont dans le BTP leur dit j'ai 50 clandés là. Tu leur files un CDI avec les charges de la France, peut-être qu'ils prendront pas les 50. Quoi,
On en revient à ce qu'on disait avec David Lisnard tout à l'heure, peut-être qu'il va falloir quand même qu'on revoie notre politique de charges, etc.
Le zéro immigration, c'est flatteur, mais bon, c'est très populiste et on sait que ça marchera pas. Tu parlais justement de l'Italie, parce qu'en effet, ça concerne tous les pays européens.
L'Italie, elle a fait pareil.
Madame Meloni a fait pareil. Tout en mettant des règles plus dures pour l'arrivée des nouveaux migrants.
Toujours est-il qu'elle a été élue sur une ligne ferme, et elle a dû régulariser massivement.
C'est le pays le plus vieux du monde, l'Italie.
500 000 migrants. Mais la vraie question, en fait, elle n'est pas idéologique, elle est structurelle. On a un vrai problème de vieillissement de la population, des pénuries de main-d'œuvre, donc on en a besoin.
Problème de trafic de hachiches dans les banlieues.
Mesurer tes propos, c'est que l'Espagne a encore un taux de chômage très élevé, au-dessus de 10%. La France a 8% de chômeurs. Donc beaucoup disent, attendez, on serait effectivement en période de plein emploi avec un manque de main-d'œuvre, ça se comprend, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans notre pays, qu'on pourrait déjà commencer par faire travailler. Et l'Espagne a un chômage encore très important, même si la croissance le fait un peu baisser. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que comment ça se fait que ces pays n'arrivent pas à faire travailler leurs propres chômeurs. Oui.
L'autre réalité en France, c'est que tu as beaucoup de personnes étrangères qui sont en situation irrégulière sur le territoire français et qui travaillent au noir. Donc est-ce que ça, c'est pas plus intelligent de les régulariser pour qu'à un moment donné, ils payent aussi
nos impôts? Je crois que patron, il veut ça. Si travail au noir, c'est justement parce
c'est
que
pour baisser, c'est pour lever les charges.
Parce que j'en fais aussi du droit des étrangers, et quant à l'employeur qui veut aussi aider son salarié qui l'emploie au noir, pour le régulariser, c'est très compliqué.
Nous sommes avec Julien qui est avec nous au 32-16, qui voulait réagir. Il nous appelle de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Que pensez-vous de ce qui se passe en Espagne? Est-ce qu'il faut suivre cet exemple ou au contraire, comme le dit Retailleau, surtout pas? Il veut même mettre au ban des nations européennes l'Espagne.
Bonjour les GG. Faut surtout pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce soit l'Espagne ou même nous, il y a une crise du chômage qui est assez importante. Donc on a déjà du mal à mettre à l'emploi les gens qui sont chez nous, déjà pour commencer. Ensuite, ça crée un appel d'air énorme, et ça crée un appel d'air qui a des conséquences humaines très importantes. Puisque là, qu'est-ce qu'on va faire? On va régulariser 500 000 personnes qui vont pouvoir aller se déplacer partout en Europe. Donc globalement, ils vont aller au pays qui est le plus avantageux pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça va créer un appel d'air pour tous les autres, en fait, qui vont vouloir venir et traverser coûte que coûte, quitte à y rester, à y laisser leur vie. Donc on a des gens qui ont des idéologies politiques qui prônent justement l'ouverture, l'humanisme et tout ça, mais qui n'ont aucun problème à faire en sorte que les gens crèvent dans la Méditerranée. Ça les dérange pas, quoi. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, les gens qui sont déjà en place et qui ont du mal à vivre, qu'est-ce qui va se passer pour eux d'ailleurs? Parce que on a déjà du mal à assumer les gens qui sont sur le territoire, que ce soit français, espagnol ou n'importe où, et on va encore venir d'autres personnes Mais comment on va financer tout ça? Donc, ok, là, on régularise 500 000 personnes qui sont en emploi en Espagne, machin. Mais déjà, de base, ces 500 000 personnes, elles sont dans l'illégalité, en fait. Là, on est en train de justifier.
Oui, le principe de la régularisation.
Bah c'est le principe de la régularisation,
oui. Ben oui, mais voilà, en fait, on a des gens qui...
Oui, mais est-ce que c'est pas pragmatique? Est-ce que, Julien, je suis d'accord, mais vous voyez, même l'Espagne de Meloni, alors c'est drôle parce que, enfin, oui. L'Espagne, l'Italie Meloni, voilà. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement socialiste qui est vraiment à gauche en Espagne et on a vraiment la droite dure en Italie. Finalement, les deux font la même chose. Alors, ce qu'a fait l'Italie en plus, c'est quand même, elle a mis des règles beaucoup plus drastiques.
Elle a choisi ses métiers, l'Italie.
Elle a aussi durci.
Elle a choisi ses métiers, c'est quand même pas pareil, Olivier.
Alors, je termine, elle a durci, effectivement, l'accès aux frontières et elle a choisi ses métiers. Là, on parle de 500 000 régularisations sans véritablement
de critères. Déjà sur le territoire.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en France sous un gouvernement socialiste. C'était celui de Lionel Jospin qui, dans les années 90, ouais. Avait aussi décidé de régulariser massivement. Et bon, à l'époque, il y avait eu les mêmes débats. On tourne toujours sur les mêmes débats.
Vous dites aux gens qui sont en galère actuellement pour remplir leur carburant et à qui on dit, bah écoutez messieurs, vous allez devoir payer encore plus d'impôts parce qu'en fait on va faire venir des gens qu'il va falloir financer. Mais attendez, moi j'ai
déjà... Oui, mais s'ils travaillent, si ces gens-là travaillent,
ils travaillent, ils doivent avoir des impôts.
Mais attendez, okay,
il faut rentrer les impôts.
Ils travaillent, mais déjà on a sur les territoires des personnes qui n'arrivent pas à trouver du travail. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que bon, il y a la géographie, mais au-delà de ça, on pourrait déjà obliger les gens qui sont sur le territoire à aller travailler avant de dire on va importer des gens pour travailler. Enfin, je sais pas, on a un chômage record. Vous l'avez dit, en Espagne, il y a 10% de chômage et on importe des gens pour pouvoir venir travailler. Mais à un moment donné, ça peut pas aller.
Parce que vous savez,
mais parce que
très bien,
aussi, il y a un chômage record parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas faire les métiers que font les autres, quoi.
Voilà, des métiers. Difficile.
Les métiers difficiles, dans les pays dits occidentaux, ben les gens ne veulent plus le faire.
Merci Julien d'avoir appelé au 3216. Nous sommes avec notre boulanger Jérôme du côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Jérôme.
Bonjour Alain, comment ça va?
Ben c'est Olivier, mais ça va quand même.
Pardon,
Alain est à Nice, d'ailleurs, vous allez peut-être le croiser. Dites-moi Jérôme, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il faut suivre l'exemple et régulariser massivement les travailleurs immigrés sans papier?
Ben, on n'aura pas le choix en fait, parce que les jeunes Français aujourd'hui veulent plus travailler dans nos pieds, travailler dans le bâtiment, dans le service à la personne, dans le nettoyage, on trouve plus personne.
Alors, attendez, on vous entend pas très bien, rapprochez-vous de la fenêtre, ça passe pas très bien là.
Ouais,
vous n'avez pas encore la 5G à Nice, hein, je crois que c'est pas en arrivant,
c'est chez vous.
Dans le fournil, ça passe pas très bien.
Ah, si vous restez dans le fournil, ça va être compliqué. Ouais, vous dites quoi? On n'a pas le choix parce que finalement, vous n'arrivez pas à trouver d'employés dans la boulangerie?
Non, on n'arrive pas. Et puis quand on en trouve, c'est de suite en maladie, de suite les absences, les retards. Ça traîne la patte, ça fait que de se plaindre. Alors qu'eux, ils sont motivés, ils sont travailleurs. Enfin, moi, je suis épaté par mon apprenti, sincèrement.
Vous avez un apprenti qui vient d'où?
De Côte d'Ivoire.
De Côte d'Ivoire, d'accord.
Ouais, ouais.
Et alors, ça se passe bien?
Ça se passe merveilleusement bien. Sincèrement, je conseille à tous mes confrères de travailler avec eux. Ils sont toujours à l'heure, toujours propres, jamais en mode travers.
Et vous avez envie qu'il ait ses papiers, le régulariser?
Et je ferai tout pour. Je ferai tout pour, oui.
Et c'est compliqué ou pas? Maître Pégan, oui, c'est compliqué.
Ah oui, c'est compliqué.
Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui.
Ouais, donc vous avez déjà tenté? Vous avez rempli un dossier pour la préfecture, Jérôme?
Eh oui, mais il est en attente, malheureusement.
Eh oui, mais ça, c'est en fait, les délais sont tellement longs parce qu'il y a
c'est
beaucoup de...
C'est l'administration française.
Bien d'accord, l'absurdité de la lourdeur.
1800 serfois pour faire un dossier de quoi que ce soit.
Oui, mais alors là,
après, il y a des enquêtes et tout ça.
Non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, d'un côté, on régularise en masse, et puis de l'autre, on va emmerder excusez-moi de parler comme ça. Un boulanger qui a un apprenti qui est méritant et qui a envie de garder.
Quand le patron se porte garant est d'accord de lui payer des charges, parce que c'est aussi ça, non? C'est de passer d'un système où, enfin, si l'apprenti, il n'est pas super rémunéré, mais ça veut dire que si on passe avec un CDI, c'est des charges et ça change le coût de la main-d'œuvre. Donc, quand c'est le patron qui est volontaire pour faire ça, à un moment donné, devrait être le garant pour que.
L'État pourrait déjà assouplir, enfin, être plus pragmatique.
Oui, mais bon, derrière, il y a des abus aussi. Et parfois, certains employeurs peuvent être poursuivis pour aide au séjour irrégulier. Donc, tu vois, c'est aussi un peu tendancieux pour les employeurs de temps en temps.
Ouais. En tout cas,
c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue.
Oui, Jérôme.
Pour l'instant, il est mineur, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'à la majorité, ça va être plus compliqué. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe à la majorité, justement?
Là, il est pris en charge par une association et malheureusement, à ses 18 ans, il va être livré à lui-même.
Et oui. Parce que c'était un mineur isolé, c'est ça ?
C'est un mineur isolé, oui.
Donc
oui.
Là, il est pris en charge, si j'ose dire, par une association. À 18 ans, il est dans la nature, quoi, en fait.
C'est exactement ça.
Mais avec quel type de papier ?
Pour l'instant, aucun. Là, il attend au moins un titre de séjour ou un permis de travail.
Ouais, mais alors, voyez, pardon, excusez-moi, mais c'est la débilité française. Hein, je vais être cash, mais on a donc quelqu'un qu'on prend en charge parce que les mineurs isolés, effectivement, on les garde chez nous. Il y a d'ailleurs même
pendant qu'il est mineur, on n'est pas foutu de lui trouver un statut.
Non, mais je veux dire, d'ailleurs, il y a une obligation de la France. Il y a une obligation faite à la France de les garder.
Sinon, on est condamné.
Donc, le mineur isolé, on le garde, on le prend en charge par une association, donc on met les moyens, etc. On lui trouve un boulot. Donc il y a une démarche d'intégration par le travail, ça se passe bien, on le forme, il va apprendre à parler français, etc. Il va se former, et puis à 18 ans on lui dit, bah écoute, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien, maintenant démerde-toi et il y a des chances qu'on t'expulse. Enfin pardon, mais c'est quel temps perdu, enfin, c'est complètement débile, c'est-à-dire on est sur deux logiques différentes. On est dans une logique très protectrice au début d'intégration, et ensuite on dit, bah non, maintenant t'es comme les autres, tu vas te débrouiller.
Mais le dossier qui est déposé à la préfecture est censé prospérer, hein, quand même, parce que si tu commences à faire les démarches en tant que mineur isolé avec un employeur parce qu'il t'a trouvé un travail et qu'ensuite de quoi tu veux être régularisé, au moins avoir
un récépissé. Mais la préfecture des Alpes-Maritimes, est-ce qu'elle va regarder de près son dossier ou est-ce qu'elle va...
Ils sont censés le faire, après, tu sais, l'utopie et la réalité.
Bah non, mais l'efficacité surtout.
Il rentre dans le rang, il fait chier personne, dans quel cas on lui donne des papiers, soit c'est un qui fout le bordel et puis on le renvoie chez lui quand il a 18 ans.
On ne renvoie pas les OQTF, c'est-à-dire les gens qu'on ne veut plus chez nous parce qu'ils ont commis des actes souvent délictueux et on sait plus quoi en faire parce que les pays ne veulent pas les récupérer. Ouais, et en revanche, un jeune méritant,
etc.
On n'est
pas foutu de lui faire des papiers.
On n'est pas foutu de lui faire des papiers pour qu'il reste chez nous. Sincèrement, excuse-moi, Sandrine, c'est mon nom sur la tête.
Et du coup, je ne peux que abonder dans ton sens.
Du coup, il va bosser sans papier.
Et puis, quand il aura 18 ans, il deviendra peut-être au QTF parce que il aura basculé dans la délinquance, on va savoir quoi. Enfin, à un moment donné, c'est aussi ça, quoi.
Bon, merci en tout cas.
Fabrique la misère quand même, notre histoire.
Merci en tout cas, Jérôme, pour ce cas très précis qui montre bien qu'on marche un peu quand même sur la tête. L'absurdistan que dénonçait
David Snar. Et bravo à lui, parce qu'il aide un mineur isolé, c'est très fort.
Oui, mais lui-même,
Il y trouve un intérêt,
puisqu'il n'arrive pas à trouver de gens. Dans un instant, mes chers grandes gueules, on va s'intéresser à un jeune candidat à l'élection présidentielle. Oui, un de plus. On avait David Lisnard, mais il y a aussi Gabriel Attal, qui sort cette semaine un livre où il se dévoile beaucoup sur sa vie privée. Il parle notamment de l'amour de sa vie, son compagnon, un ancien ministre, aujourd'hui commissaire européen, Stéphane Séjourné. Il parle de son père, il parle de vraiment des choses très intimes. Est-ce qu'on a envie de tout savoir de nos hommes politiques ? Est-ce que c'est important de tout savoir de leur vie privée avant de voter pour eux ? La question est posée au 32-16 et aux grandes gueules. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Didier Giraud, Sandrine Pégan et le docteur Jérôme Marty. La campagne présidentielle est lancée, on l'a bien compris. Tout à l'heure, on avait un candidat, David Lisnard, le maire de Cannes, qui était face au GG. Il y a un autre candidat qui est en train de faire avancer ses pions, c'est Gabriel Attal. Il sort un livre après-demain, un livre très intime où il raconte beaucoup de choses de sa vie privée.
Elle est où Sophie Marceau? C'est pas sa génération.
Elle est où Sophie Marceau? C'est le premier livre de Gabriel Attal qui sort après-demain. Ça s'appelle En homme libre aux éditions de l'Observatoire. Et à cette occasion, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron se livre longuement sur sa vie privée et particulièrement sur son idylle avec l'homme de sa vie. C'est comme ça qu'il le présente. Il s'agit de Stéphane Séjourné, ancien ministre macroniste. C'est un proche lui aussi d'Emmanuel Macron, commissaire européen aujourd'hui. Il évoque aussi dans ce livre la mort de son père, ses addictions, celles de son père, son enfance, son coming out. Alors la semaine dernière, souvenez-vous, on avait la une de match derrière toi, Didier Giraud, sur RMC Story avec Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles.
Doit-on que le dernier ferme la porte.
Doit-on tout savoir de nos hommes politiques ? qui veulent devenir président. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez envie de savoir leur vie privée, avec qui ils sont, quels sont leurs amours, leur parcours, leurs parents? Le 32-16 pour intervenir. Sandrine Pégan.
Moi, je pense que je préfère savoir la vie intime de celui qui va être élu avant plutôt qu'après.
C'est-à-dire?
Mais je préfère découvrir, je préfère savoir plutôt que découvrir. Donc,
par exemple, François Mitterrand à son époque, tu aurais aimé savoir avant qu'il soit élu qu'il avait une double, une triple, une quadruple vie.
Bon, là c'est des tromperies, c'est des infidélités, donc c'est autre chose.
Ah bah c'était plus que ça. Oh, il y a une famille qui était prise en charge.
Je ne sais même pas s'il y avait tromperie là. Hein. Je pense que c'était su et connu. Hein.
Non, mais là
c'était une double vie.
Là c'est intrinsèquement par rapport à sa vie sexuelle, à son orientation sexuelle, à son partenaire amoureux, etc. Donc pour moi, je préfère savoir qu'aujourd'hui il est homosexuel affirmé et qu'il est en avec un compagnon depuis tellement d'années, plutôt que de l'apprendre après une fois qu'il est élu. Ah bah au fait il est en couple, il est pas en couple. Vous voyez, moi pour moi je trouve que ça se
Et qu'est-ce que
l'individu.
Qu'est-ce que ça change dans ton choix?
Ben parce que je me dis que ben, il a une vie privée qui est stable. Pour moi, ça fait aussi partie de l'efficacité après. Parce que si tu fais que aller droite à gauche, évidemment qu'au bout d'un moment, t'es plus vraiment très très au fait dans tes choix après. Et puis ce qu'il dit dans son livre, c'est quand même très touchant parce que il parle aussi de ses problèmes pour devenir parent. Donc avec des homosexuels, c'est quand même, on sait que c'est autorisé.
Il est d'ailleurs pour la GPA.
Voilà. Mais sauf que c'est autorisé, mais on sait très bien que c'est très compliqué. Moi, j'ai des amis.
C'est autorisé
qui sont
à GPA aux États-Unis, mais pas en France.
Oui. Et ben justement, j'ai des amis homosexuels qui sont passés par une mère porteuse aux États-Unis. Ça leur a coûté 400 000 euros.
Ah oui, ça coûte une fortune.
C'est pas vraiment.
Jérôme Marty.
Non, mais moi, je trouve surtout qu'il fait confiance aux Français. Parce qu'il est quand même, à mon sens, c'est le premier homme politique de cette dimension-là à mettre dans la balance son homosexualité.
Il y a eu Bertrand Delanoë aussi.
Oui, mais il ne se présentait pas à la fonction suprême. Il ne se présentait pas à la fonction suprême.
Non.
Voilà, donc là, il se présente à l'élection principale.
Mais aujourd'hui, vraiment, c'est encore un acte courageux de le faire.
Société, justement, il a raison, je pense que la société a changé, mais entre le fait de dire la société a changé et le fait de sauter le pas et de dire oui et de le revendiquer comme un couple normal, c'est un couple normal, moi je trouve ça plutôt bien.
Et c'est bien qu'ils le disent.
Oui, alors après, il a été, écoutez, on va pas se mentir, voilà quelque chose que tout Paris sait et il faudrait pas le dire à la France. Donc à un moment quand même on joue clair parce que toutes les rédactions le savent depuis des années et des années. Il a été avec Gabriel Séjourné, après ça a été Gabriel Lajourné, puis après ça a été Gabriel Séjourné. Donc on le sait très bien quoi. Donc c'est moi je trouve, enfin, ça me choque pas du tout et je trouve ça plutôt bien et ça fera plutôt avancer les choses quoi.
D'autant juste qu'il dénonce les attaques dont il fait l'objet sur son homosexualité. Donc tu vois, et ça c'est inacceptable. Donc
alors Didier Giraud, est-ce que tu as envie de savoir la vie privée de ceux qui nous gouvernent?
Non mais je m'en fous moi.
Ça t'intéresse pas.
Mais non, mais je vois même pas en quoi ça doit devenir un livre. En quoi Gabriel Attal, le fait qu'ils vivent avec ses journées et que eux deux, ils ont phagocyté la Macronie de l'intérieur à eux deux alors qu'ils étaient en couple. Hein, tous les Parisiens le savent, mais nous les ruraux, on s'en fout quoi. Enfin, même si nous on leur est passion, on s'en fout. Et à un moment donné, j'aurais préféré qu'ils sortent un bouquin qui parle de son programme pour redresser la France.
Il parle de tout.
Plutôt que de nous expliquer qu'il est en couple avec ses journées.
Enfin, tu vois. Non, là Didier, là tu es de mauvaise foi parce qu'il ne parle pas de ça dans ce livre.
Je suis complètement de mauvaise foi.
Et tu l'assumes.
Non, je veux dire, c'est que non, mais à un moment donné, on va trop loin dans
la transparence.
Enfin, la vie publique et la vie privée sont tellement mélangées qu'aujourd'hui on va trop loin. Et ça devient un argument de vente, de vote. Enfin, la mise en scène de Jordan Bardella la semaine dernière, elle est aussi. Mais moi, peut-être qu'ils sont très amoureux, tant mieux pour eux. Et Attal, pareil. Mais à un moment donné, cette mise en scène, elle amène rien au débat politique. Rien du tout au débat politique. Et à un moment donné, quand Charles de Gaulle y rentrait avec Vauvonne, ce qui se passait entre eux, c'était à l'intérieur.
Non, mais voilà, c'est ça.
Le temps a changé.
Mais oui, mais ça dit quelque chose aussi sur les électeurs qui sont devenus des voyeuristes et qui veulent à travers le Facebook et le machin. Et on vit dans une société où y compris les hommes politiques vivent avec une perche à selfie. Et ça, moi, je trouve ça juste insensable.
Sauf que tu oublies quand même quelque chose, parce que tu dis, mais tu lui donnes raison quelque part en disant je m'en fous, parce que tu montres que la société a changé. Mais il n'empêche que tu vas sur X et tu regardes sous les posts qui sont en lien avec ce bouquin,
rien à faire.
Le nombre de tweets homophobes qu'il y a,
ça te montre
qu'il y a une France homophobe qui existe. Or, une élection, elle se gagne largement, et je trouve assez courageux de le revendiquer comme il fait, de revendiquer son amour pour un homme. C'est assez courageux.
Oui, mais
c'est courageux, mais ça amène quoi au débat politique?
Moi, je pense que c'est un peu à double tranchant.
Il a 37 ans, il vit avec son temps, c'est normal.
C'est un peu à double tranchant. Moi, je pense que c'est normal, puisque on dit que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. C'est normal que le peuple sache à peu près qui est cet homme. Moi, ça me choque pas de savoir s'il a des enfants, quelle est sa vie, son parcours. Enfin, ça fait partie. Un homme, je suis désolé, mais il se définit aussi pas uniquement par son programme présidentiel. Il se définit par son parcours, avec qui il vit, ce qu'il a fait avant, ses origines, etc. C'est ça, la vie d'un homme ou d'une femme. Ouais. Donc, moi, ça me choque pas. Après, le risque, à mon avis, c'est que quand tu commences à dévoiler ta vie privée, tu donnes l'autorisation à tout le monde, un, de la commenter, deux, de dire, attention, c'est plus vrai, ils sont plus ensemble, etc. Trois, d'aller chercher la petite bête. Et donc, tu prends un risque. Parce que quand tu commences à faire ça, eh bien, après, on va regarder si la belle image que tu as affichée à la une de match ou ailleurs, elle est réelle. Ouais, est-ce que c'est pas un couple bidon? Est-ce qu'il est pas en train de la tromper ou de le tromper, etc. Et après, ça arrive à des histoires d'un président sur un scooter un matin qui va aller voir sa maîtresse, tu vois.
Oui,
enfin, ça fait la risée de tout le monde.
Ça a commencé par Carla et moi, c'est du solide. Enfin, qui a fait rentrer les paparazzis dans sa vie privée, organisée, c'est Sarko. Et moi, je suis désolé, depuis Sarko, on fait plus de politique en France, on fait de la com.
Voilà. Thomas est
et
avec
ils
nous.
Ne font plus que de la com et ils font plus de la politique.
Et alors, et Ségolène Royal, alors quand justement elle était sur la une
mais
de Paris,
pareil,
couché,
c'est la première.
Oui, c'est le même truc.
Il y avait quand même une tradition française
qui était de ne pas parler des histoires, justement, trivialement, de cul des politiques. Le Paris en parlait, mais pas la France. Et là, aujourd'hui, on met plutôt ça à la main. Donc, ça prouve ce changement de société.
Donc, on fait de la com, on fait de la politique.
On sort aussi de l'hypocrisie.
Oui, mais il y avait l'hypocrisie, pardon. Mais voilà, quand éclate l'affaire Maryse Pinjot, on se rend compte qu'il y a des journalistes politiques qui le savaient, mais il ne fallait pas le dire, etc. Et c'était aussi hypocrite.
Plein d'autres.
Thomas, bonjour, est avec nous, 32-16.
Bonjour, les GG.
Il nous appelle du Val d'Oise. Est-ce que ça vous intéresse de savoir tout de la vie privée de nos responsables politiques?
Ah, bah alors là, je vais être là, j'en ai rien à foutre. J'ai autre chose à faire dans la vie que de m'occuper de ce qu'ils ont fait, de qui ils sont. Ils peuvent aimer les chats, être gays, être ce qu'ils veulent. Je m'en fous ce que j'aurais voulu qu'ils fassent. Par exemple, Monsieur Attal était au pouvoir, c'est qu'il fasse les choses pour les Français. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Est-ce que maintenant il a besoin de sortir un livre pour dire oh j'ai une enfance difficile? Il y a plein de gens dans le monde qui ont eu des enfances difficiles. En France aussi, c'est pas une icône. Il n'a pas à se prendre pour je ne sais quoi. Je m'en fous de ce qu'il est. Il pourrait être qui il veut. Tant mieux pour lui s'il aime quelqu'un, s'il a eu un grand amour. C'est très bien. Maintenant, à un moment donné, ce qu'on leur demande à ces politiques, c'est de faire le job pour améliorer la vie des gens. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir ce qu'il aime dans la vie ou pas? Moi, j'aime faire du jet ski. Bon, ça va pas changer.
Mais vous n'êtes pas candidat avec son présidentiel, Thomas.
C'est ce que j'allais vous dire. Si j'étais président, on s'en foutrait de le savoir. Donc, à un moment donné. Moi, personnellement, je trouve que c'est nul. Après, qu'ils sortent des livres, mais on n'est pas là pour faire des love stories. La semaine dernière, c'était Mardella avec la princesse. Et je m'en fous, en fait. Il pourrait être gay aussi. Je m'en fous. C'est pas le problème. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ces gens fassent les choses, fassent ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire améliorer la vie des gens.
Thomas, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il dévoile sa vie privée qu'il va pas non plus après œuvrer pour la France.
Sauf que dans tout son mandat, s'il est élu, il fera de la com. Voilà.
Ou pas.
Voilà, c'est comme tu dis, c'est de la com. Il a fait quoi pour la France? Je suis désolé. Il a fait quoi? Il est parti bouder dans son coin parce qu'il y a une dissolution, ça lui a pas
fait. C'est ce qui fait qu'il est pas resté très longtemps au pouvoir à Matignon.
Oui, mais il était dans le gouvernement. Il était quand même dans le gouvernement de Macron. On peut dire ce qu'on veut. Il y était. Alors après, on peut encore dire ce qu'on veut.
Oui, devant.
Il faisait l'ombre. Mais c'est très bien pour lui qu'il fasse ça. Mais personnellement, je dois pas être le seul à penser quand même. Mais j'espère qu'on n'en a rien à faire. Je veux dire, tant mieux pour lui qu'il fasse sa vie. C'est très bien ce monsieur qui vit longtemps, même je m'en fiche. Mais à un moment donné, juste, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait des résultats. Et on n'en a pas eu. Et il n'y en aura pas avec ce genre de plan à deux balles. Oh, j'ai ma vie, je fais ci, je fais ça. Non mais c'est bon, quoi. Même un plan de guerre serait plus intéressant. À un moment donné, c'est bon. Faut arrêter juste ce délire. On est dans un monde où les gens ont besoin de concret et eux, ils nous vendent de quoi? Oh, mes histoires personnelles, je m'en fous.
Mmh. Oui, mais alors Thomas, comment vous expliquez le succès de l'émission de Karine Le Marchand, vous savez, sur la vie privée des politiques?
Et parce que les gens, ils sont devenus des voyeurs. Et puis parce que les gens, ils vivent avec une perche à ses pieds.
Une élection, c'est ça. Mais oui, mais.
Une élection, tu vises.
Désolé, Didier, là, on est contre toi. Là, on fait le.
Mais bien sûr, mais en même temps, ce que vous dites, Thomas, je suis d'accord avec lui, c'est qu'on sait que le prochain président de la République, eh ben, ça sera un gros nul qui fera de la communication avec sa perche à selfie toute
et
la journée. Et ça
aussi
sera pas le mec qui va résoudre nos problèmes, la dette et rétablir la France.
On a
le sait.
Bien compris que ni Thomas ni Didier vont acheter le livre. Ça, c'est
Oui, mais en même temps, parce que les gens veulent ça, eh ben, on va vers une génération de politiques qui résoudra plus aucun problème, qui ne prendra plus aucune décision dure à prendre, difficile à faire accepter par le peuple. Et on va vers une fuite en avant parce que les gens, pour être élus, ils voudront parler de leurs problèmes, machin. Ils voudront faire des propositions.
Ça peut être d'ailleurs même parfois une diversion.
Bah oui.
Faut faire attention à ça.
C'est terrible en fait.
Ça va pas. Donc je me reconstruis une image en parlant de ma vie privée où ça devient tout plus touchant, etc.
Oui, mais bon, ils seront jugés à la fin sur quoi?
En fait, ça humanise aussi.
Là-dedans, il y a un côté aussi caliméro quand même, quoi. Hein.
Donc, bon, allez, merci mes chères grandes gueules. En tout cas. Eh ben voilà, ben oui, c'est ce qu'on attendait,
jouer.
C'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour cette rencontre très attendue, la demi-finale avec des champions PSG Bayern de Munich. C'est mardi prochain à 21h au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. À vous de jouer, à vous de gagner, c'est maintenant.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC et sur RMC Story. Didier Giraud, l'agriculteur, Maître Pégan, notre avocate, le docteur Jérôme Marty dans les GG. Tiens, vous avez vu, il est de plus en plus difficile de se concentrer devant un film ou une série. Parce que on a la tentation de faire autre chose et notamment de scroller avec son téléphone portable pendant qu'on regarde le film, la série, etc. Et est-ce qu'en fait on n'a pas un défaut de concentration? On est en train de perdre notre concentration et ça va être un défi pour les années à venir. La perte de concentration, est-ce le mal du siècle?
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin.
Alors le paradoxe d'ailleurs, c'est que en ce moment au cinéma les films sont de plus en plus longs.
C'est vrai, commence de plus
heures,
en plus tard.
Mais c'est vrai que notre concentration est en train de diminuer parce que on est happé par autre chose, notamment par les alertes. Regardez Jérôme Marty pendant que je parle, il est sur son portable. Eh bien maintenant, est-ce qu'on peut regarder une série? Est-ce qu'on peut regarder un film? Est-ce qu'on peut se concentrer longtemps aujourd'hui? Et ça concerne pas que nos enfants, que nos ados, hein. Ça concerne aussi les adultes. Vous savez qu'en Chine, ils ont inventé des séries qui font 40 secondes à 3 minutes. Ça va de 40 secondes à 3 minutes. Ça s'appelle le Donjou. Et ce sont des séries très très courtes qu'on peut regarder sur son téléphone. Et grâce à ça, on arrive à rester concentré les 3 minutes ou un peu moins que compte la série. On en est là. Est-ce que on devient tous des poissons rouges, Sandrine Pégan?
Moi, en fait, ça m'étonne pas du tout tout ça parce que je suis la première concernée. À chaque fois que je regarde un film ou que je vais au cinéma, pardonnez-moi, mais je pique un petit roupillon.
Oui.
Ah ça, je sais.
Est-ce
pas.
Est-ce que tu regardes ton portable?
Oui, alors moi, je regarde mon portable parce que je suis avocat urgentiste. Tu vois comment je pique l'application? Si, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir un client qui est en garde à vue, qui a besoin de moi, et donc je ne peux pas laisser
Et chez toi, quand tu regardes une série, est-ce que tu es capable de poser ton portable et de rester concentré sur un épisode de 50 minutes?
Non. Vraiment pas. Je suis la première à le faire et c'est pas bien, hein, je reconnais. C'est pour ça qu'après j'imagine que les scénaristes sont obligés de s'adapter. Parce que quand tu regardes une série ici, au bout de 30 secondes, il se passe rien, tu t'ennuies, t'es déjà en train de faire autre chose. Donc en fait, j'ai l'impression que le Netflix, j'ai trouvé une petite phrase, vous allez me dire si elle est bien ou pas, c'est le McDo du cerveau. Bien ou pas ?
C'est amusant parce qu'il y a un scénariste qui dit, en fait, aujourd'hui, on va proposer de plus en plus des films faciles à consommer, un peu comme la malbouffe. Mmh. Puisque, bon, voilà, des films qui ne demandent pas beaucoup de concentration. Si tu perds le fil, c'est pas très grave parce que 10 minutes après, tu reviens.
Quoi.
Et voilà. Mais c'est, le problème, c'est que tout ça va pas nous aider quand même.
Ça va pas nous aider.
Non, c'est trivialement une usine à con. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique parce que le monde qu'on vit, c'est ça, et j'en fais partie ô combien. On est tout le temps dans la recherche de quelque chose de nouveau. On est tout le temps dans l'interrogation. Et s'il se passe quelque chose sans moi, je dois être au courant de ce qui se passe. Je dois aussi parler de moi et de ce que je suis en train de faire, etc. Je dois être relié en permanence. Enfin, nous, on a connu une époque. On en parlait encore en début d'émission sur un autre sujet, mais on a connu une époque où il n'y avait pas les portables. Hein.
Il n'y
avait
pas
les portables.
Par exemple,
on arrivait à travailler sans être joint toutes les deux minutes.
Est-ce que tu arrives à lire un livre? Est-ce que tu arrives à lire un livre sans portable à côté?
Non, mais ah oui, ça oui. Ça
quand tu as la télé, moi je regarde plus la télé, sauf des trucs enregistrés, mais pas en direct.
En replay.
Alors il y a les actus en continu, oui, ça oui, mais les actus en continu, elles ont un format aussi qui est le même, hein, qui où tout va très vite. Donc c'est fait. Quand on regarde les jeunes aujourd'hui. Il y a une difficulté de concentration qui est patente, quoi. Et tout doit être construit sur le fait que la durée d'attention, elle est de 5 minutes maximum, quoi. 5-10 minutes max. Après, on passe à autre chose.
T'imagines dans les cours, dans les salles de. Ça va être compliqué avec les élèves.
Écoute, moi, je trouve ça. S'il n'en reste qu'un, je ne suis pas le dernier des Mohicans, mais je.
Toi, t'arrives encore.
Quand tu fais les villages, t'as pas le téléphone.
Écoute, tu m'as vu avec mon téléphone depuis 3 heures ?
Non, c'est vrai.
C'est vrai, oui.
Bon, voilà. Du coup, c'est un outil de travail comme mon tracteur, comme mes vaches. Voilà, je m'en sers au travail. Je suis comme les autres, hein, je scroller comme un con là dans le train. Là.
Oui.
Mais des fois, j'arrive à me rendre compte que c'est complètement débile et que quand t'as l'esprit occupé à travailler, bah t'es pas là-dessus quoi. Après, ce qui m'inquiète le plus dans ce que tu nous décris, à la rigueur, que les séries Netflix s'adaptent à ce genre de public. Je vais te dire, hein, sans toucher l'autre. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on en arrive à changer le format du sport, quoi.
Oui, aussi.
On va faire une Coupe du Monde demain, demain matin, là. On va faire une Coupe du Monde où, parce qu'elle est aux États-Unis, on va couper en carton, avec une pause fraîcheur de 3 minutes, avec une mi-temps qui va durer 20 minutes, et on en arrive à, parce que c'était aussi depuis la semaine dernière, de dire les jeunes, ils n'arrivent plus à regarder un match en entier sans scroller, quoi. Et moi, je me demande quelle société on va faire. Je t'annonce, toi qui es médecin, que d'ici 20 générations, l'être humain aura les vertèbres soudées et tout arqué dans les cervicales.
Tu l'as déjà.
Le nez sur le portable.
Le fait d'être penché comme ça à l'avant, tu l'as déjà.
Et ça, c'est un truc de fou.
Des exercices comme ça.
Non, mais c'est. Mais à un moment donné, décroche de ton portable, bordel. Enfin, c'est quand même.
J'arrive pas à comprendre ça.
Non, mais j'arrive pas à comprendre comment. Mais on peut faire l'expérience. On va bouffer tous les quatre au resto. Et à un moment donné, la conversation s'arrête, se coupe, parce que il y en a deux qui passent en mode portable, quoi. Et
la question est de savoir.
Ça va avec le sujet d'avant pour moi.
On a des vies à sauver, pardon, mais bon, mais lui, c'est un patient et moi, c'est un client.
Tu donnes bonne conscience, ma grande.
Ouais. Est-ce que c'est pas l'excuse un peu facile?
Mais oui.
Tu te dis, je dois être connecté tout le temps parce que je suis une avocate et je peux avoir un client, une affaire qui arrive. Est-ce que ça, c'est. T'es aussi sur les réseaux sociaux, donc j'imagine que t'en profites pour regarder tes réseaux sociaux. C'est pas d'ailleurs.
Quand j'étais gamin, mes parents n'avaient
pas de téléphone fixe.
Ouais.
Et puis alors, ça m'a pas empêché de faire un homme, quoi.
Mais la société n'est plus construite pareil.
Oui, ça a changé, Didier.
J'entends que ça a changé.
Le fait que
on peut pas réfléchir à quel monde on est en train de créer, quoi.
Regarde,
le fait que tu es joignable à chaque instant modifie aussi le travail des autres. Moi, les gens qui travaillent avec moi, je veux dire, ils savent que je suis joignable tout le temps, et donc ils vont m'envoyer soit des SMS, soit des appels, etc. Toute la journée, à toute heure, quoi.
Moi, j'étais au procès hier.
C'est comme ça.
Et je reçois quoi? Je reçois un SMS d'une cliente qui s'est fait battre par son mari. Ben pardon, mais j'allais pas lui dire. Pardonnez-moi, mais l'audience se termine à 23h et je la laisse comme ça dans le flou.
Attendez, mon épisode n'est pas terminé.
Non, c'est pas comme ça.
Je conçois la conception de mon métier. Je finis ma soupe.
Je conçois la conception de
Non mais quelle société on est en train de faire. C'est-à-dire une société dans laquelle on ne peut plus se concentrer plus de 5 minutes, ça va donner quoi? Alors, là, on parlait des œuvres artistiques.
Qu'on réfléchit pas aux conséquences.
Non, mais ça, on parlait de la lecture, de regarder un film, etc. Mais d'une manière générale, dans la vie.
Mais des bulots!
Est-ce qu'on va pouvoir.
Je te le dis, ça va faire des bulots.
Une réunion, quelqu'un qui te parle, est-ce qu'on va pouvoir tenir une conversation plus de 5 minutes et où à un moment donné, on décroche,
mais
on comprend pas?
Aujourd'hui, la montée de la violence dans la société où les gens qui sont pas d'accord, ils arrivent pas à dialoguer, ils se mettent sur la gueule. Tu crois pas que c'est lié à ça aussi?
Mais sûr que c'est ça.
Mais moi, je crois que c'est exactement ça. Hein. On y est déjà
sur
dans cette société-là. Et plus ça va loin, quoi. Hein. Apprendre la frustration, apprendre à attendre. Mais c'est quelque chose qui n'existe plus dans notre société.
Mais c'est vrai que nous, on est une génération, notamment enfants, on passait notre temps à attendre. On subissait un peu la loi des parents, on s'ennuyait.
Si t'as été à l'armée, c'était pire.
On n'avait pas des écrans, etc. Donc on restait souvent dans sa chambre. On jouait, mais on s'ennuyait aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on passait. L'enfance, c'était long, quoi, en fait.
Là, on a tué la nuit, et la nuit, c'était formateur.
Oui, c'est vrai.
Parce que la nuit, tu fais travailler ton imagination.
L'ennui,
c'est formateur.
Non, mais il y a des gens.
On s'ennuyait. Et puis on passait
aujourd'hui qui t'apprennent à t'ennuyer, quoi. Non, mais je me demande dans quelle société.
Et toi, tu t'ennuies jamais,
Non, rarement, quoi.
Oui, parce que toi, t'as beaucoup de boulot.
Oui, parce que c'est physique, quoi.
Tu
peux pas faire du
boulot. On passe moins de temps au boulot aussi.
Mais après, ça, c'est vrai, mais j'ai aussi cette rigueur. Tu vois, moi, ça m'arrive de me poser devant un match de rugby parce que j'ai décidé que je regardais ce match-là, le téléphone est posé.
Et tu t'endors au bout de 5 minutes.
Mais moi, c'est pareil.
Non, c'est
le seul moment où le téléphone est coupé.
Je regarde devant les matchs
de rugby.
Oui. Je regarde. Enfin, mais tu vois.
Où j'ai passé commande sur le fait qu'on m'appelle pas maintenant.
Tu vois, par rapport à ce que tu dis, Jérôme, moi, j'ai aussi quelques autres responsabilités et j'ai la réputation d'être un président casse-couille parce qu'il n'est pas joignable tout le temps, quoi. Et qu'il ne répond pas rapidement aux SMS, quoi. À un moment donné,
c'est pas la dictature du SMS.
Non. Attends, alors une petite question de femme. Et quand vos femmes vous parlent de leurs petits problèmes, est-ce que vous les écoutez ou vous scrollez? Le piège.
Alors, par contre, j'ai d'autres défauts.
Bien sûr,
je peux avoir la télé allumée à table.
Voilà.
Et ça va favoriser.
La télé allumée à table, c'est le début
des
emmerdes.
Super, attention là, vraiment. Ah. Oui. Donner une belle image du couple. Hein.
Bon, merci à tous. Restez concentrés. Restez concentrés parce que il y a Estelle Denis. Et Estelle Denis, ça dure 3 heures aussi. Donc c'est une concentration. Comme dans les grandes gueules.
Mais c'est 3 heures
qu'on picore. Mais c'est tellement rythmé.
Incroyable.
Vous allez adorer mes sujets aujourd'hui.
Ah, vas-y.
Tout d'abord, nous allons parler de la hausse de l'allocation de rentrée scolaire. On a appris ça aujourd'hui.
Déjà.
Écoutez bien. 426 euros pour un élève de primaire.
Je croyais qu'on avait plus d'argent.
Bah écoutez,
on continue à augmenter.
Alors attendez, 426 curieux. Euros d'allocation pour un élève de primaire. Notre question est simple, est-ce que c'est trop? Voilà, tout simplement.
À qui on donne ça?
On vient de te le dire, aux parents d'enfants de 6 à 10 ans.
Et, il n'y a pas de critères sociaux.
Si, sous condition de ressources.
Il est parti.
Et les plafonds sont un peu montés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de personnes qui en bénéficient.
Ah, c'est des gens qu'on en a besoin, peut-être.
Aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est trop? 426 euros pour un élève de primaire. Bah, écoutez, vous réagissez bien sûr au 32-16. On va parler également de la tendance des boutiques éphémères. Vous savez, c'est une espèce de pop-up store d'influenceurs.
Ou
la petite créatrice de bijoux du village qui vient se mettre dans un local. Ça cartonne. Est-ce que ça vous réjouit?
C'est une bonne idée, moi, je trouve. J'aime bien.
Ou est-ce que vous trouvez ça un peu déprimant? Voilà, c'est boutique éphémère. On en débat également. Et puis, les festivités populaires en voie de disparition. En France, il y a de plus en plus de fêtes de village qui sont en difficulté.
Oui, plus de fêtes votives.
Mais oui, les foires à la saucisse, les brocantes, les
vides greniers. C'est bien dommage.
Mais pour vous, les fêtes de village,
c'est ça.
Est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est ringard?
C'est génial.
Bon, tu dis, dit-il. D'accord, ok. Et la dernière fois que tu es allé dans une fête de village, c'était quand?
Eh bien, détrompe-toi, moi je suis à la campagne quasiment tous les week-ends.
Tu es allé dans quelle fête de village?
Les habitants de Lyon appellent au 32-16, ils pourront confirmer ma présence.
Mais dis-moi dans quelle fête de village tu es allé?
L'été, par exemple, il y a un village près de chez moi qui fait tous les samedis soirs une espèce de marché. On achète des produits locaux, un marché fermier, et on mange sur place, etc. Et j'adore ça.
Et voilà. Ah ben c'est
voilà,
bien.
Et ça s'appelle fête du village.
Et ben c'est super.
Là, tu sais plus quoi dire.
Appelez-nous. Je sais toujours quoi dire. Appelez-nous si vous habitez Lyon et que vous avez aperçu.
Oui.
Vous avez la chance d'apercevoir Olivier Truchot. Écoutez, nous vous recevons à partir de 14h.
Mais oui. Et le tu préfères?
Le tu préfères, tiens, c'est pour Didier Giraud. Tomate cerise ou tomate classique?
tomates classiques quand elles viennent de mon jardin.
Les tomates cerises, bien sûr. Mais cerises, c'est n'importe quoi. Les tomates cerises, on mange pour l'apéro, pour la salade, pour la même pour la salade. C'est des tomates cerises à l'apéro, on bouffe toute l'année. C'est terminé. Tomates cerises et billes de mozzarella.
Allez, Estelle Denis, puis nous à demain 9h. Bon après-midi sur RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.